Voyage au centre des volcans, donc dans notre tête au carré cet après-midi. Chaque année dans le monde, une cinquantaine de volcans entrent en éruption, témoignant de l'activité permanente de notre Terre. Avec mes invités, dans un instant, nous allons parcourir la planète pour comprendre la mécanique volcanique, la particularité des volcans français et la façon aussi de faire face au risque d'éruption. Et avec mes invités, donc, nous attendons vos questions, vos messages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, la découverte d'une zone du bonheur dans le cerveau, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, des chercheurs japonais ont passé au crible les cerveaux de 51 patients et pensent avoir trouvé une zone fortement associée à la perception de bonheur. On décrypte ces travaux dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Stéphanie Texier pilote notre tête au carré avec un dossier préparé aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Carole Sauvage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Des volcans dans le dossier, donc dans quelques minutes avec mes invités, les volcanologues Jacques-Marie Bardanzeff et Georges Boudon. Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Jacques-Marie Bardanzeff. À quand remontent les dernières éruptions de volcans en Auvergne et quand pourrait avoir lieu la prochaine?
Alors la plus jeune, c'est celle du lac Pavin, qui est daté d'environ 6000 ans, et puis il y a quatre volcans associés, le Puy de Montchal, le Puy de Montciner, le Mar d'Estivadou. Donc 6000 ans, c'est peu, c'est 4000 avant Jésus-Christ, c'est donc plus jeune que l'homme de Lascaux, que l'homme de Cro-Magnon, qui ont 15000 ans. Donc on ne peut pas exclure un réveil, ce n'est pas d'actualité, bien sûr, rien ne bouge pour l'instant, donc on rassure nos amis auvergnats, mais on ne peut pas rayer ces volcans d'Auvergne, notamment la chaîne des Puys et le lac Pavin, de la liste des volcans actifs, car il faut au moins 50 000 ans à 100 000 ans de recul sans éruption pour être sûr qu'un volcan soit éteint. Donc on a rendez-vous dans 44 000 ans pour voir si le Pavin est vraiment éteint.
D'accord. Donc pour l'instant, les capteurs sont au calme.
Voilà, on rassure tout le monde.
Georges Boudon, est-ce qu'on a compris aujourd'hui pourquoi justement certaines explosions de lave étaient particulièrement dévastatrices?
Alors, on comprend progressivement donc un certain nombre de choses, et donc là vous parlez en effet des dômes de lave. Donc nous avons publié un article sur justement l'explosivité, les explosions superficielles qui se produisent lorsque les dômes de lave sont en croissance, et nous avons montré justement que certaines explosions, comme par exemple celle du 8 mai 1902 à la montagne Pelée, qui a fait 30 000 morts en Martinique, qui a fait 30 000 morts, et donc qui a été une éruption extrêmement extrêmement dévastatrice, et nous avons montré que ces éruptions, en utilisant cette éruption de la montagne Pelée et un certain nombre d'éruptions à dôme, dont certaines de la chaîne des Puys, justement le Puy de Dôme, le Puy Chopine, et nous avons montré donc on arrivait à comprendre un petit peu mieux pour quelles raisons donc ces explosions qui sont très superficielles dans le dôme et qui sont dirigées latéralement, d'où l'effet très dévastateur puisque toute l'énergie est libérée dans une seule direction, non pas verticalement. Mm-hmm. Pour quelles raisons donc ces éruptions ces explosions pouvaient se produire? Alors je ne sais pas si on peut le développer.
On y viendra tout à l'heure avec vous. En tout cas, c'est important, on le verra pour la prévention aussi. Ce sont des travaux et des observations absolument essentiels. Voilà donc pour le décor planté pour notre dossier. Vous nous rejoignez donc avec vos messages sur le site de l'émission. On a trouvé le bonheur dans le cerveau et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Vous êtes heureux, vous? Vous êtes heureuse? Vous savez ce que c'est que le bonheur? Si on vous mettait dans ce fauteuil, et si on vous disait, allez, dites-moi tout, racontez-moi ce que c'est que votre bonheur, que répondriez-vous? Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher. Alors qu'est-ce que c'est que le bonheur?
Et en attendant, ce sont des chercheurs japonais qui pensent l'avoir déniché, le bonheur dans le cerveau. Ils publient cette semaine dans la revue Nature Scientific Report la découverte d'une zone du cerveau dont la taille serait fortement associée au bonheur subjectif. Bonjour Hervé Platel.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes professeur de neurophysiologie à l'université de Caen. Alors est-ce que le bonheur peut vraiment se cacher quelque part dans notre cerveau, comme l'affirment ces chercheurs japonais? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je pense qu'on est encore loin du compte. Déjà, on avait traqué, il y avait un fantasme d'avoir découvert le circuit du plaisir à un moment donné, ou des régions qu'on pourrait stimuler comme ça pour déclencher le plaisir à la demande. Donc le bonheur, je crois que c'est un peu la même chose, on est loin du compte. Et là, ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est qu'il y a une région qui nous permet, parmi d'autres, dans un réseau, parce qu'il ne faut pas le voir comme une région isolée, et bien une région qui participe à notre capacité à exprimer le bonheur pour nous-mêmes.
De quoi parlent ces chercheurs quand ils pensent mesurer le bonheur subjectif?
Alors le bonheur subjectif, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font passer des échelles à ces participants en leur posant un certain nombre de questions. Et en particulier, ce qui est amusant, c'est de voir quelles sont les questions posées et sur l'échelle qui corrèle justement, où on va voir une relation entre le niveau de bonheur, c'est-à-dire les gens qui considèrent être particulièrement heureux, et le volume cérébral de la région dont ils identifient et qui est une région du précuneus. Hein. On pourra relocaliser la région pour essayer de comprendre à quoi ça correspond. Mmh. En fait, c'est quoi ces questions? Ces questions, dans une échelle, on vous demande, eh bien, est-ce que vous considérez vous-même comme étant une personne pas du tout heureuse ou très heureuse? Et puis, en fait, il faut graduer ça sur une échelle en 7 points. Est-ce que par rapport à vos proches, vous vous considérez vous-même comme quelqu'un de pas vraiment heureux ou de très heureux? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui, dans la vie, voyez plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Et il faut juger, en fin de compte, subjectivement, où on se trouve sur ces échelles-là.
Donc ça veut dire que c'est une façon, en tout cas, de quantifier le bonheur à l'aide d'un questionnaire. C'est le point de départ, en tout cas, pour mener cette étude sur le cerveau. Hein.
Et c'est ça qui est intriguant, en fait, et qui s'explique, hein, parce que il y a eu beaucoup d'études sur les émotions positives, négatives, la manière dont on peut les juger, aussi tout ce qui est du jugement esthétique, et on voit bien dans le cerveau, quand on fait ce type de tâche, qu'il y a de nombreuses régions qui s'activent. Mais là, ce qui est intéressant, c'est les auditeurs peuvent faire un petit peu d'introspection, d'ailleurs, quand on entend ces questions. Est-ce que vous considérez comme une personne plutôt heureuse ou pas heureuse? Et comment vous faites pour répondre à une question comme ça? Bien, c'est évident que vous allez essayer de compiler dans votre tête, d'associer dans votre tête, tout un tas d'éléments qui vous permettent de dire, ah oui, là j'ai cumulé dans ma vie des moments de bonheur, des moments où j'ai été heureux, et donc en définitive je fais appel largement à ma mémoire, et notamment à ma mémoire autobiographique, et au cumul de ces événements et au jugement que je peux en avoir.
Quel type d'application on peut imaginer à une telle découverte?
Pour l'instant, moi je trouve que c'est très exploratoire, ça doit être confirmé. C'est intéressant de le considérer par rapport au profil de personnalité des individus testés, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apprend? Ça peut nous apprendre comment les individus, en fin de compte, jugent leur bonheur et quelles sont les ressources cognitives qu'ils utilisent pour juger du bonheur. En fait, la joie et le jugement du bonheur, ce sont des choses assez complexes d'un point de vue du raisonnement. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion joyeuse? Comment on peut juger que quelque chose est positif dans notre vie? C'est beaucoup plus complexe de juger, en fin de compte, une émotion positive que de juger une émotion négative. Les émotions négatives sont souvent assez intenses, comme la peur. Et elle s'impose à nous, même sans qu'on ait besoin d'élaboration mentale extrêmement sophistiquée. Ce qui est moins le cas, en fin de compte, du bonheur et de la joie, et en particulier de ce concept de bonheur qui est multifactoriel.
Alors, ce qu'il faut dire quand même, Hervé Platel, c'est que cette mesure du bonheur, là, par cette équipe japonaise, se traduit concrètement par un volume de matière grise plus important, hein.
Tout à fait. Donc c'est bien une étude qu'on dit structurale, hein. C'est pas en fin de compte l'augmentation de l'activité de cette région, c'est un volume plus important de cette région. Et donc les auteurs expliquent bien dans leur article donc que c'est la région qui corrèle évidemment au niveau du seuil statistique qu'ils se sont fixés, qui corrèle avec leurs échelles. Mais quand ils baissent le seuil statistique, ils voient d'autres régions qui participent aussi à ces corrélations, notamment des régions plus en avant du cerveau et du côté de l'hémisphère gauche, puisqu'ils voient en fin de compte une corrélation au niveau de la région du précuneus. Vite fait, on peut dire,
oui.
Le précuneus, ça sert à quoi,
hein? C'est où, ça
alors,
sert
le précuneus,
à quoi, ouais.
Alors vous imaginez l'arrière de votre tête, il y a les régions visuelles, et puis si vous allez un petit peu plus en avant, on va en fait dans la partie supérieure trouver de larges régions, parce que le précuneus c'est une large région cérébrale qui est une région d'association, notamment d'association visuelle. Si on vous fait faire des tâches d'association et de stratégie visuelle, vous allez avoir des activités cérébrales dans ces régions. Donc toute activité où vous allez avoir une stratégie d'imagerie mentale visuelle, va faire participer ces régions. Et on n'est pas très surpris, en définitive, de voir cette région, parce, dont on sait qu'elle est particulièrement importante dans l'efficacité du rappel en mémoire épisodique, donc de mémoire personnelle, d'événements personnels, parce que, en fin de compte, c'est une région qui va être importante pour nous pour réassocier, effectivement, des contenus subjectifs de souvenirs, et notamment des images mentales.
Je vous sens quand même assez réservé sur cette publication, Hervé Platel.
Ah oui, je crois que c'est faut être réservé dans la manière dont on fait passer le message. Dire qu'il y a une région du bonheur, ça nous ramène effectivement à plus d'un siècle en arrière avec les grandes heures de la phrénologie en disant qu'il y a un centre du bonheur quelque part. Non, je pense qu'on peut aujourd'hui on peut pas dire ça. On peut dire qu'effectivement ça permet d'imaginer qu'il y a des circuits cérébraux dont cette région fait partie qui sont importants dans notre capacité à pouvoir associer des informations et je pense que ça c'est ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer d'aller plus loin sur les profils de personnalité de ces gens et de savoir, on sait au niveau de la mémoire, dans notre laboratoire on travaille largement sur cette mémoire notamment autobiographique et épisodique et on sait effectivement qu'il y a des gens qui vont avoir des facilités à réévoquer des souvenirs personnels et d'autres personnes moins de facilités, des gens qui vont avoir des facilités à avoir des images mentales vives et d'autres moins de facilités. Il faut voir effectivement quels sont les profils cognitifs de ces personnes qui expriment l'idée du bonheur. Parce que peut-être que si on se sent heureux, c'est parce qu'on est capable aussi de réévoquer facilement des épisodes de notre vie qui nous ont rendus heureux.
Eh bien, nous, on était très heureux de vous entendre, en tout cas, Hervé Platel, nous expliquer cette publication qui est arrivée cette semaine. Merci à vous, merci Axel.
À demain, Mathieu.
Et une qu'on peut réécouter, comme d'habitude.
En podcast sur franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des forêts tropicales fossilisées sous les glaces de l'Arctique vieilles de 400 millions d'années. Ces restes ont été découverts par des chercheurs britanniques. Ces forêts seraient responsables de la chute vertigineuse des températures qui a en partie causé la grande extinction du Dévonien. En absorbant des grandes quantités de dioxyde de carbone par photosynthèse pour nourrir leurs tissus, les arbres lycophodes d'une hauteur de 4 mètres auraient en effet appauvri l'atmosphère en CO2. La solitude associée à des problèmes de santé, selon une étude statistique, la solitude pourrait même accroître le risque de mortalité prématurée de 14%. Ce résultat américain établit donc un lien direct entre l'expression des gènes qui activent les globules blancs et l'isolement social à partir d'analyses sanguines réalisées sur des humains et sur des macaques rhésus très sociables. En clair, les personnes isolées auraient un système immunitaire affaibli et souffriraient davantage d'inflammation que celles qui sont entourées. Des statistiques qui, là aussi, restent à confirmer. Et puis enfin, on sait pourquoi la souris est le plus grand spermatozoïde que l'éléphant. Cette curiosité de la nature vient d'être expliquée par des chercheurs européens qui ont démontré que la taille d'un mammifère reste un facteur essentiel dans l'évolution de ses gamètes. Plus l'appareil reproducteur de la femelle est vaste, plus les spermatozoïdes risquent de s'y perdre. Ainsi, les grands mammifères obéissent à la stratégie du gâchis en produisant un grand nombre de spermatozoïdes pouvant se perdre sans conséquence. À l'inverse, les petits animaux plutôt économes en termes de quantité produisent des spermatozoïdes plus grands et plus vaillants au taux de réussite individuelle plus élevé. Allez, on part sur les volcans du monde dans un instant avec mes invités Jacques-Marie Bardenzeff et Georges Boudon et vos messages qui arrivent en ce moment même sur le site de l'émission franceinter.fr, c'est la tête au carré.
Concours de circonstances, malentendu, malchance. Malgré les apparences, n'y voit nulle malveillance. Concours de circonstances, simple coïncidence. Avec une autre, je danse, mais c'est pas ce que tu penses. C'est un concours de circonstances. Et je plaide l'innocence, mais en dépit de mon éloquence, tu doutes encore, tu n'as pas tort. Concours de circonstances. Je n'ai pour seule défense que cette excuse bidon, c'est toi qui as raison. J'ai aucune circonstance à te
atténuante et je n'avance plus le moindre argument. J'accepte ton jugement. Tes yeux me lancent des éclairs. Oui, je suis fait de chair. Et la chair est faible parfois. Ne me le fais pas payer trop cher. Regret de circonstance, j'ai trahi ta confiance. Je mériterai la potence, mais fais preuve de clémence. Laisse-moi une dernière chance.
Concours de circonstances, Alain Chamfort.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Avec un dossier volcan cet après-midi, deux volcanologues sont à mes côtés, Jacques-Marie Bardanzeff, Georges Boudon. Jacques-Marie Bardanzeff, vous êtes professeur à l'université de Cergy-Pontoise et à l'université Paris-Sud-Orsay et vous publiez quasiment dans le même temps deux ouvrages. Le premier, Tout savoir sur les volcans du monde, séisme et tsunami, c'est aux éditions Orphi. C'est la deuxième édition d'ailleurs de ce livre. Et puis pour les enfants, à partir de 4 ans, à la découverte des volcans d'Auvergne avec une maison d'édition qui s'appelle La Vache qui lit. C'est une maison d'édition auvergnate hein, d'ailleurs.
Oui, oui, spécialiste dans des livres sur l'Auvergne, le viaduc de Garabit, les papillons alizés, voilà, c'est local et on fait découvrir l'Auvergne aux Français et aux étrangers.
Avec des illustrations de Tom Tom et puis Georges Boudon, vous êtes quant à vous professeur à l'IPGP, c'est l'Institut de Physique du Globe de Paris. Vous avez dirigé entre autres les observatoires volcanologiques et sismologiques. Voilà, les questions des auditeurs sur le site de l'émission bien sûr, sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Alors Jacques-Marie Bardanzeff et Georges Boudon, c'est vrai que votre travail de volcanologue, c'est avant tout un travail de terrain. Quels sont actuellement dans le monde les grands spots volcaniques pour observer de belles bêtes en activité, Georges Boudon?
Alors, il y a toujours un certain nombre de volcans qui sont en éruption. Hein, donc, certains s'arrêtent, certains reprennent. Et il y a surtout un certain nombre de volcans qui sont en activité permanente.
Oui.
Quelques volcans, donc on en parlait tout à l'heure, des volcans comme le Merapi, qui ont en Indonésie, qui a une activité quasiment permanente, bon, avec des périodes de ralenti ou des périodes de plus forte activité.
Qu'est-ce qu'on appelle une activité permanente d'ailleurs? C'est vraiment c'est des coulées de lave, par exemple?
Alors, dans le cas, par exemple, de volcans comme le Merapi ou le Santiago au Guatemala, ce sont des dômes de lave. Donc, des dômes de lave qui, parce que la lave est très visqueuse, donc elle ne veut pas s'écouler, elle s'accumule à la sortie de l'évent et elle va former donc une escroissance de plus en plus grosse qu'on appelle un dôme. Et donc, c'est la différence par rapport par exemple, au volcan. Comme le Piton de la Fournaise, qui donne des laves très très fluides, des laves plus moins riches en silice, plus fluides, et donc qui vont s'écouler très très facilement. Donc ces dômes de lave sont des laves extrêmement visqueuses, et c'est ce qui en fait donc leur dangerosité, parce que les gaz s'échappent beaucoup plus difficilement de ces laves visqueuses.
Donc l'Indonésie, le Guatemala, mais pas seulement, hein, Jacques-Marie Bardanzeff.
On va dire que tout le tour du Pacifique est très actif. Actuellement, par exemple, il y a des éruptions en Équateur. Il y a 3 volcans en éruption en Équateur. Il y en a un au Nicaragua, un au Mexique. Il y en a plusieurs en Indonésie. C'est vrai qu'il y a, comme vous l'avez dit, 50 éruptions par an dans le monde à surveiller. Et donc, quand on parle n'importe quand, il y a toujours entre 5 et 10 volcans actifs.
Oui. Alors, pourquoi justement autour de la ceinture tropicale en particulier, c'est lié aux plaques tectoniques?
Exactement, c'est que les volcans sont plutôt aux frontières de plaques. Donc, un géologue curieux qui veut aller voir des volcans, il va dans les régions interplaques. Et le Pacifique, c'est une grosse plaque qui plonge sous les continents autour. Donc, sous l'Asie d'un côté, sous l'Amérique de l'autre. Et cette subduction, comme on dit, c'est-à-dire ce plongement d'une plaque sous une autre, ça se traduit par des réchauffements, par des fusions.
Et donc, ça titille les volcans.
Et des volcans. Hein, et très explosif, comme l'a dit Georges, et donc dangereux.
Alors, il y a des sites assez incroyables, si on aime justement les volcans pour aller se balader, c'est Hawaï, par exemple, où vous décrivez un volcan, l'éruption dure depuis 1983, c'est-à-dire sans interruption du tout.
Oui, alors Hawaï, c'est au contraire un volcan intraplaque, il est au milieu de la plaque pacifique, mais c'est un peu une anomalie, il est très actif. Moi, j'y suis allé trois fois en éruption, trois fois différentes.
Ouais.
Et c'est vrai que l'éruption actuelle dure quasiment sans discontinuer depuis le 3 janvier 1983.
Ouais.
Donc, effectivement, ces auditeurs veulent aller voir un volcan actif.
Oui, bah, d'aller à Hawaï, on est sûr d'en trouver un.
Ils ont quasiment 75% de chances de voir une activité.
Comment on l'explique, ça, Georges Boudon, justement?
Mais on l'explique parce qu'on a la production de magma. Les magmas sont générés donc à grande profondeur, hein, au toit du manteau, donc à peu près une centaine de kilomètres de profondeur. Et dans ces volcans intraplaques, donc on a des phénomènes de bombement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a surtout donc une grande production de magma en profondeur, donc ouais. Qui vont alimenter ces magmas. C'est pour ça que Hawaï est un des volcans, bien sûr, et le volcan le plus actif de la planète. Mais le Piton de la Fournaise aussi, qui est dans le même contexte, un volcan intraplaque. Plaque aussi qui est extrêmement actif, une production de lave qui est plus faible qu'Hawaï, mais des éruptions nombreuses. Dans les dernières décennies, on a en moyenne entre 2 et 3 éruptions par an. Alors avec des périodes de repos et des périodes de plus forte activité, comme actuellement l'année 2015 a été une période de forte activité pour le Piton de la Fournaise.
Ouais. Est-ce que les volcans sous-marins vous intéressent aussi au même titre que ceux qui sont sur
Alors, les volcans sous-marins, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que une grande partie de la production magmatique de magma, elle est sous-marine.
Oui.
Elle se produit au niveau des dorsales océaniques. Vous savez, ces zones, ce qu'on appelle les zones d'accrétion, c'est-à-dire les zones où les plaques s'écartent les unes par rapport aux autres. Donc, c'est tout ce qui parcourt les océans, la dorsale médio-océanique, hein, qui va progressivement écarter les continents. Et donc là, il y a une très, très grosse production de magma. Et donc, en gros, c'est 99% de la production de magma qui est sous-marine.
D'accord.
Et puis de temps en temps, il y a ces zones-là qui sont émergentes. Hein, c'est le cas des Açores, c'est le cas de l'Islande. Donc, ils sont des parties de ces dorsales qui sont émergentes. Et puis il y a d'autres volcans sous-marins. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur un volcan qui s'appelle le Kikemgeni, qui est au large de l'île de Grenade. Donc, dans un autre contexte, un contexte de zone de subduction où on a plongé donc avec des bathyscaphes dessus pour aller prélever des roches, étudier les gaz qui ont été.
Ah oui, on fait de la plongée comme ça, sûr, sans ça, problème. Ça, voilà, l'eau doit être très chaude là pour le coup.
Non, c'était à plonger avec un bathyscaphe, mais bon, l'eau est très chaude.
Vous étiez protégé.
On était descendu à plusieurs centaines de mètres. Ouais. Et on a quelques volcans sous-marins et qui sont surveillés parce qu'ils ont une activité aussi qui est très forte.
Donc, impossibilité évidemment d'aller plonger comme ça juste avec une combinaison. Hein.
C'est un petit peu difficile parce que déjà, le sommet du volcan est un peu profond. Donc on peut difficilement l'atteindre. Et puis, en effet, il y a des émanations de gaz.
Jacques-Marie Bardanzef, ça veut dire que la lave peut couler sous l'eau sans problème? Ça paraît étrange comme ça, non?
Oui, c'est vrai que le volcan est souvent un combat entre éléments. Donc, comme vous dites, l'eau et le feu. Et puis la terre, bien sûr, et l'air. Donc, c'est un peu une bagarre. C'est vrai que quand la lave sort, elle est très chaude, elle fait plus de 1000 degrés. La mer est à peu près à quelques degrés, donc a tendance à refroidir la lave. Donc c'est une bagarre. Alors ce qui se passe souvent, c'est que la lave, elle fait une grosse boule et la mer fige la carapace de la boule. Ça fait ce qu'on appelle un oreiller. Donc on appelle ça des pilos lava. C'est une lave en oreiller. Alors c'est des coussins, bien sûr, pas très moelleux. Puis après, il y a une autre boule qui se forme. Donc le fond de l'océan est tapissé de ces boules qui sont figées. Puis on a aussi parfois l'inverse. C'est quand on a un volcan aérien comme à Hawaï. Oui. Les coulées de lave coulent dans la mer. Donc ça peut s'observer, je l'avais vu il y a 2 ans. Et donc à ce moment-là, la lave effectivement est figée par la mer immédiatement. Ouais. Mais c'est des combats qui sont à peu près équilibrés puisque aucun des deux éléments ne veut céder.
Ouais. Il y a des volcans gigantesques sous l'eau. Hein.
Ah bah oui, c'est des volcans. Il faut savoir qu'un volcan comme Hawaï, dont le point culminant est à 4200 mètres hein, au Mauna Kea, à sa base à moins 5000 mètres.
Donc ça fait 10 000 mètres quasiment.
Quasiment, donc c'est plus haut
que l'Everest. Ouais.
On s'en rend pas toujours bien compte, mais c'est les plus grosses montagnes du monde, oui.
Georges Boudon, cette question de Viron, les laves qui sont formées de la fusion des roches s'écoulent à quelle vitesse en moyenne? Est-ce que là aussi ça dépend de la nature du volcan?
Bien sûr, ça dépend de la nature du volcan, ça va dépendre de la nature de la lave. Alors comme le disait Jacques-Marie, quand on est par 2 ou 3 000 mètres de fond dans les dorsales, et bien cette lave elle est tout de suite figée à la sortie, formant ces pilos lava, donc elle ne va pas s'écouler. Quand on est sur un volcan qui produit des laves qui sont très pauvres en silice, en fait l'abondance, la richesse en silice va dicter un petit peu la viscosité de la lave. Donc les laves comme à Hawaï, comme au Piton de la Fournaise, ce sont des laves qui sont pauvres en silice, qui sont très très fluides et donc qui vont s'écouler très très facilement. C'est ces laves très incandescentes. On voit qu'on peut avoir des coulées de lave, on a relevé dans des zones qui sont bien chenalisées, des vitesses de l'ordre de 60-70 km/h dans des chenaux, oui, qui sont, donc ça peut aller très vite. Généralement, c'est exceptionnel et souvent c'est beaucoup plus lent. Et puis on a des laves qui sont très visqueuses quand on augmente la teneur en silice dans les zones de subduction justement, où on a des laves qui ont jusqu'à 60-70% de silice, ces laves sont très visqueuses. Et par exemple, il y a des coulées de lave qui se forment, qui sont très visqueuses, et vous pouvez être au front de la coulée de lave, vous allez rester plusieurs heures, vous allez entendre des craquements, mais la coulée ne va pas avancer, elle avance de quelques centimètres par jour, donc on ne s'en rend pas directement compte.
Partons en Islande, souvenons-nous ce qui s'est passé, tout le monde s'en souvient d'ailleurs, c'était en avril 2010.
Nous avons probablement les pires conditions en Europe. C'est ce qui a créé cette catastrophe. Il y a eu des vents qui ont poussé les cendres d'Islande vers l'Europe, des vents relativement forts. Ensuite, les cendres ont atteint le jet stream à haute altitude. Mais au-dessus de l'Europe, aujourd'hui, les vents sont relativement calmes, donc le nuage ne se dissout pas. Le nom du volcan est... Nous avons des noms longs et difficiles en Islande. C'est un nom qui signifie « île montagneuse couronnée de glace ».
Voilà, on l'appelle Eyjafjall aussi chez les volcanologues, hein, Jacques-Marie Barthélemy. C'est plus simple pour aller plus vite. Est-ce qu'il faut craindre vraiment une activité de ces volcans islandais? Parce que là aussi, c'est une partie du monde tout à fait particulière dans ce domaine.
Oui, alors depuis 2010, il y a déjà eu deux grosses éruptions en Islande. Il y en a eu une en 2011 au même endroit, au Grímsvötn, enfin non loin, qui a fait craindre les mêmes phénomènes, mais ça n'a pas été le cas. Puis il y a une éruption l'an passé, ça a été une fissure qui s'est ouverte sur un kilomètre, qui a craché des fontaines de lave à 100 mètres de hauteur, et l'éruption a duré 6 mois. C'était la plus grande éruption lavique depuis 200 ans. Donc c'est vrai que l'Islande, c'est, on va dire, c'est une terre volcanique. Il y a des éruptions récurrentes, mais comme ça a été très bien dit par l'interview qu'on vient d'entendre, c'est qu'il faut à la fois une conjonction entre une éruption, descendre également des vents dominants du nord vers le sud pendant un certain temps pour que ça gêne l'aviation. Donc ça a été un cas en 2010 exceptionnel qui se reproduira peut-être pas avant 50 ou 100 ans. Puis maintenant, on sait un peu ce qu'il faut faire. Les avionneurs, les météorologistes, les volcanologues en ont tiré des leçons.
Ouais, Georges Boudon.
Oui, cette éruption de l'Eyjafjall en 2010, donc en fait, la quantité de cendres qui a été émise est due au fait que c'était un volcan qui était sous un glacier. Et donc, il y a eu une fonte de la glace et donc une quantité d'eau qui est rentrée en contact avec le magma. Et ça a augmenté l'explosivité, ce qu'on appelle des éruptions hydromagmatiques ou phréatomagmatiques. Et donc, cette association eau en contact avec le magma a fragmenté la lave beaucoup plus et donc a donné cette quantité de cendres qu'ils ont monté en altitude et qui se sont déplacées vers l'Europe.
Larry sur Twitter demande si une éruption volcanique pourrait provoquer un séisme de grande ampleur ou l'inverse.
Alors, c'est vrai que séisme et volcan sont associés parce que c'est tous les deux le résultat de la Terre active. Donc j'en parle comme dans mon livre en même temps, mais c'est pas lié directement. C'est très rare qu'un séisme entraîne un volcan ou un volcan entraîne un séisme. Alors, un volcan entraîne un séisme, la réponse est non. Parfois, un séisme important peut réactiver un volcan, mais c'est très très rare. On signale quelques cas. Les causes sont communes, c'est les plaques qui bougent, mais c'est deux événements qui sont quand même indépendants.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take.
Hello, la voix d'Adèle.
La tête carrée. Sur France Inter.
Jacques-Marie Bardenzeff et Georges Boudon, volcanologues, sont nos invités cet après-midi. Jacques-Marie Bardenzeff avec chez Orphy, les volcans du monde, séisme et tsunami. Et puis, à la découverte des volcans d'Auvergne, ça c'est pour les petits, aux éditions La Vache qui lit, à partir de 4 ans, avec des illustrations pour en savoir plus justement sur ces volcans d'Auvergne. Le système solaire également est intéressant à observer du point de vue volcanique, Jacques-Marie Bardenzeff.
Ah ouais, ça, c'est
il y a de belles bêtes aussi là.
Oui, c'est les challenges de l'avenir pour les futurs volcanologues qui nous écoutent. Il y a un champ quasiment vierge. Actuellement, c'est ce qui change le plus dans nos connaissances. Il y a des volcans dans différentes planètes du système solaire, donc des volcans géants sur Mars, éteints mais grands comme la France. Le mont Olympe fait 600 km de diamètre. Il est haut comme deux fois demi l'Everest. Donc pour les géologues qui iront l'étudier, il y a de quoi faire.
C'est le plus vaste du système solaire.
Voilà, c'est le plus grand volcan du système solaire. Puis il y a des volcans actifs sur probablement un satellite de Jupiter qui s'appelle Io.
Avec de la lave ?
Avec de la lave, avec même des lacs de lave qui font peut-être 200 km de diamètre, des coulées qui font 1000 km de long, des panaches qui comptent à 200 km, tout est multiplié par 10 par rapport à la Terre. Puis également, peut-être sur Vénus, mais c'est difficile d'accès. Donc, c'est les prochaines observations. Bien sûr, les sondes nous apportent beaucoup, les rovers qui se posent également. Mais peut-être qu'un jour, peut-être des géologues iront sur Mars, ça sera important.
Ouais, qu'est-ce qu'ils y feraient alors ?
Ils découvriraient des roches a priori à comparer avec celles de la Terre. Donc bien sûr, il y a des roches comparables au point de vue, ce sont des basaltes, mais on se rend compte déjà que d'après les spectres, ils sont plus riches en fer parce que la planète est plus petite, donc elle évolue différemment. Donc on aura un point de comparaison. Donc d'un seul coup, on développera plein de choses nouvelles. Voilà, ça sera une nouvelle ère qui s'ouvrira.
Revenons sur le plancher des vaches terrestres avec ce courriel de Jérôme, Georges Boudon, qui nous dit ceci. Qu'est-ce qu'il faut penser des petits volcans peu connus, cités loin des massifs les plus célèbres, la chaîne des Puys, Cantal, Vivarais, le long des failles, notamment ceux du Forez, surtout tout le long de la vallée du Rhône, situés sur une faille justement assez sensible. Quelle est leur dangerosité ? Est-ce qu'ils ont été pris en compte pour l'implantation des sites nucléaires, par exemple ?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le massif central, donc il y a une multitude de volcans, des grands, des petits. On parle du Cantal, là, qui est un énorme volcan, un énorme stratovolcan, le plus gros stratovolcan d'Europe, bien plus grand que l'Etna. Qui est bien sûr éteint depuis quelques millions d'années. Et puis, il y a tout un tas de petits volcans. Ce volcanisme a débuté il y a plus de 40 millions d'années. Vous voyez, donc on arrive on parlait tout à l'heure du lac Pavin à 6000 ans. On a donc une longue histoire éruptive avec des grandes périodes d'activité et surtout des grandes périodes de repos. Donc, c'est pour ça que la période de 6000 ans qui nous sépare du lac Pavin était finalement une très courte période. Et puis, il y a des volcans donc, qui ont le Forez, c'est des volcans qui ont plusieurs millions d'années, qui sont inactifs depuis plusieurs millions d'années. Donc, on peut considérer qu'ils sont éteints. certain. Les volcans les plus récents, c'est en effet la chaîne des Puits, le Pavin, enfin tout ce système-là. Et puis des volcans qui sont en Ardèche, qui sont ce qu'on appelle les volcans du Bavivaré, qui ont aussi autour de 10 000 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment les deux zones qui sont les plus
donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger,
danger pour ces massifs volcaniques. Ouais. Dont il parle.
Là, l'Auvergne, justement, c'était l'objet d'un reportage en 1972 réalisé par l'ORTF dans le cadre d'un sujet qui s'appelait « La France défigurée ».
Volcan d'Auvergne, site naturel magnifique, réserve d'air pur et de nature, à 350 km seulement de Paris. Or, ces volcans risquent d'être défigurés si l'on continue à exploiter la pouzzolane, un matériau léger qui sert à tapisser les cours de tennis, les routes, les trottoirs. Actuellement, un volcan a déjà entièrement disparu. L'exploitation de la pouzzolane, qui dure depuis 200 ans, se poursuit et d'autres puits risquent de prendre le même chemin. Les exploitants ne semblent pas en tout cas avoir conscience de ce péril, si l'on en croit l'un d'eux, M. Coudert.
Monsieur Coudert, vous n'avez pas de sentiment de culpabilité?
Oh, pas du tout, pas du tout. Non. Au contraire, je crois que ça rend service à tout le monde.
Oui, mais si vous voulez, on peut dire que les volcans d'Auvergne sont une sorte de réserve naturelle, de site classé, non?
Moi, je suis peut-être bien d'accord pour certains volcans. Si on prenait, par exemple, le Puy de la Vache, si on prenait certains puits qui sont vraiment jolis, enfin, on peut dire. Mm. Enfin, je vois pas, moi, il y a tout plein de puits de volcans par là qui... que je crois pas qu'ils représentent. Hein. Non, au point de vue touristique, au point de vue site, je ne crois pas.
Voilà, M. Coudert s'en fiche totalement de ce qui se passe autour de la pouzzolane, Georges Boudon. C'est votre coin d'ailleurs, ça. Hein.
Tout à fait.
Vous connaissez bien, vous
tout
êtes né là-bas.
Moi, je suis originaire du Cantal, donc pas très loin.
C'est terminé l'extraction de la pouzzolane?
Alors, c'est terminé. Il me semble que c'est terminé, justement. Alors, il y a eu plusieurs exploitations. Il y a un puits qui est intéressant parce que c'est le puits de l'Antégie. Alors, ce puits de l'Antégie, il a été, en effet, comme le disait M. Coudert, a été complètement rasé. Le cône a été complètement exploité. Et donc, il était en exploitation il n'y a pas très longtemps, mais je crois que maintenant, il est arrêté. Mais surtout, on en a fait un site touristique, un site de visite. Et c'est intéressant parce qu'il permet de voir justement la partie interne du cône qu'on ne voit pas lorsqu'on a le cône. Donc c'est pas totalement totalement négatif, quoi. On voit, il y a des côtés positifs. Mais en effet, la chaîne des Puits a actuellement un projet de classement de la chaîne des Puits au patrimoine de mondial. Et c'est vrai que les exploitations de pouzzolane sont pas les bienvenues.
Le guide l'Omniplanète qui vient de classer les monts d'Auvergne, Jacques-Marie Bardenzeff, parmi les 10 destinations à découvrir absolument en 2016. Il faut dire que pour vous, c'est un terrain d'observation absolument exceptionnel quand même.
Oui, c'est une juste reconnaissance, savoir qu'en France, on a des volcans magnifiques, une région magnifique qu'on peut découvrir et redécouvrir en famille, des grands-parents aux petits-enfants. Moi, contrairement à Georges, je suis grenoblois, je ne suis pas auvergnat, mais à force d'y emmener mes étudiants, des collègues étrangers, d'y faire des émissions médiatiques, j'ai passé plus d'un an de ma vie en Auvergne.
Ouais.
Donc je réclame le titre du plus auvergnat des non-auvergnats.
Ah, ben si vous voulez, on peut vous l'accorder.
Ça me fera très plaisir. Et effectivement, pourquoi? Parce que c'est très varié. On peut faire de la géologie pour des élèves de toutes petites classes, c'est-à-dire comparer le Puy de Dôme et le Puy de Côme. L'un a un cratère, l'autre n'en a pas. Bon, on peut faire, moi j'emmène mes étudiants de licence et de master, parce que dans le Mont d'Or et dans le Cantal, il y a des roches complexes, des phonolithes, des caldeiras, des intrusions qu'on appelle des dikes ou des necks, c'est-à-dire en fait des anciens filons volcaniques. Voilà, on peut également faire des émissions médiatiques, mais en plus, historiquement, c'est une région qui est très connue, donc il y a des noms qui ont été donnés localement, comme la Dômite au Puy de Dôme, l'Ordanchite à la Bande d'Ordanche, la Sensite, la Dorite, donc des collègues étrangers du Japon, du Danemark, d'Amérique me disent « moi je veux aller voir la Dômite ». Donc je les ai emmenés, ils sont tout contents.
Georges Boudon, cette question de Nathalie, est-ce que l'activité de la soufrière à la Guadeloupe est croissante ou décroissante ces dernières années? C'est un lieu que vous connaissez bien.
Alors,
aussi.
La soufrière, oui, je connais bien ce volcan puisque j'y ai travaillé de nombreuses années. Alors, c'est un volcan qui est assez particulier parce que bon, il a le dôme actuel, il y a un dôme qui s'est mis en place à peu près dans les années 1530 de notre ère. Et puis depuis, il a subi un certain nombre d'activités d'explosions phréatiques, dont celle de 76 qui a été assez tristement évidemment célèbre puisqu'elle a, a créé la polémique entre des volcanologues. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et depuis, donc, on a...
C'était Arun Taziev
et Claude Allègre, directeur de l'IPG. Et donc, on a étudié ce volcan et on s'est aperçu qu'il était extrêmement dangereux parce qu'il avait produit des grandes déstabilisations de flancs, un peu comme au Mont-Sainte-Hélène, et puis des grandes explosions. Donc, en fait, c'est un volcan qui est dangereux. Et depuis, ben, il a une activité hydrothermale intense avec des recrudescences de cette activité hydrothermale, ce qui fait que c'est un volcan qui est très surveillé et qui ne menace pas pour l'instant, mais qui doit être suivi avec façon très 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 étroite.
François demande, est-ce que vous pourriez nous expliquer le VEI, l'indice d'explosivité volcanique qui va de 1 à 8? Quel volcan actuel a ce VEI le plus élevé? Est-ce qu'il existe une prévision annuelle du nombre d'éruptions volcaniques? Alors, qui veut s'y coller? Jacques-Marie Bardenzef, le VEI. Oui.
Alors, ça veut dire le Volcanic Explosivity Index. Donc, c'est un indice d'explosivité. Alors, tout à l'heure, on classait le bonheur de 1 à 7.
Oui, là, c'est de 1 à 8.
Et ben voilà, c'est un peu pareil, c'est le même principe. Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé sur l'intensité de l'éruption, donc notamment la quantité de volume émis. Est-ce que c'est des millions de mètres cubes, voire des kilomètres cubes, voire des centaines ou des milliers de kilomètres cubes? Et où est-ce que la hauteur de la colonne éruptive? Donc, c'est vrai que les plus grandes éruptions qu'ont un VEI de valeur 8, c'est qu'ils ont fait à peu près 1000 km3 d'émissions. C'est des éruptions préhistoriques qui ont lieu par exemple à Yellowstone, qu'on appelle des supervolcans. L'éruption la plus importante historique, c'est celle du Tambora en 1815, qui a produit une grosse centaine de kilomètres cubes. Donc c'est VEI 7. Voilà. Et en général, les éruptions moyennes, c'est VEI 3 ou 4. Oui. Voilà. Donc, ça permet de classer un petit peu comme la magnitude d'un séisme. C'est un petit peu parallèle. C'est la même idée.
Et si un 8, justement, survenait dans le monde, quelles en seraient les conséquences, Georges Boudon?
Alors, quand on prend les grandes éruptions, donc c'est ce qu'on appelle les super-éruptions, on en a parlé il y a quelques années, ces super-éruptions, en particulier avec la caldeira de Yellowstone, qui a subi un certain nombre de grandes super-éruptions, avec des volumes de 1000-2500 km3 émis à chaque éruption. Et donc ça, bien sûr, ça entraîne des quantités de cendres. On a parlé de l'Eyjafjallajökull tout à l'heure, qui avait amené des cendres sur l'Europe, mais là, c'est des centaines de kilomètres cubes de cendres qui vont être projetées dans l'atmosphère. Ouais. Et qui vont, avec les courants, les vents
de la haute atmosphère,
être étalés sur tout le globe.
Et occultant donc la lumière du soleil.
Occultant la lumière. Alors, à la fois les cendres et puis ce qu'on appelle c'est les aérosols, les petites particules de soufre qui vont se mélanger à l'eau et qui vont faire de l'acide sulfurique et qui vont rester en suspension très longtemps, beaucoup plus longtemps que les cendres. Et donc ça peut entraîner des réductions de la
température,
de rayonnement et donc de la température. Et si ça se produit pendant plusieurs années ou plusieurs décennies, et bien ça peut avoir des effets catastrophiques.
Quel nombre de degrés à peu près en moins? Si justement le soleil est obstrué.
Mais on a regardé les dernières éruptions, par exemple l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1990-91. Il y a eu 10 km3 de magma qui ont été émis et ça a entraîné une baisse de température de l'ordre du demi degré dans l'année qui a suivi.
Demi degré, mais ça pourrait être beaucoup plus important encore.
Plus, et surtout s'il y a des grosses quantités, ça peut être plusieurs degrés et pendant plusieurs années. Et donc ça peut avoir des effets extrêmement extrêmement graves.
Ce sont ces super volcans qui ont participé à la disparition des dinosaures, en tout cas, c'est ce qu'on dit, épisode volcanique avec la météorite. En tout cas,
Ils sont accusés. C'est vrai que donc une éruption type Yellowstone pourrait faire baisser la température du globe d'environ 10 degrés.
C'est énorme.
Ça serait une catastrophe écologique.
Énorme. Hein. Oui, oui.
Ça a été modélisé par nos collègues américains. Donc, s'il y avait une nouvelle éruption à Yellowstone, comme il y a eu il y a 640 000 ans, ça serait 100 km autour, tout est détruit comme avec une bombe atomique. Ça serait les États-Unis sous la cendre. Et ça serait les glaces qui arrivent et que les ports d'Anvers et d'Hambourg sont dans la glace. Donc, il ne faut mieux pas imaginer parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et il y a eu des éruptions encore plus importantes, mais surtout pendant encore plus longtemps, notamment il y a 65 millions d'années en Inde, dans la région du Deccan. C'est une région qui est grande comme la France, qui est recouverte de 2 km d'épaisseur de lave, plus dans la mer. Donc on pense que ça a eu un impact énorme au niveau écologique. Et en tout cas, ça a dû beaucoup altérer la vie animale et végétale. Peut-être la fin des dinosaures, il y a eu d'autres événements, mais en tout cas, ces éruptions volcaniques majeures ont un impact écologique important.
Ouais. Et on peut imaginer que l'une d'entre elles survienne aujourd'hui.
Alors, il n'y a pas de règle. C'est vrai que ça ne va pas arriver demain, mais on ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas d'éruption dans les 10 ou 20 ans à venir. En principe, comme c'est 100 000 fois plus important, c'est 100 000 fois plus rare. Donc, a priori, ce n'est pas les risques les plus importants dans l'immédiat, mais on ne peut pas les exclure.
Bon, espérons que nous passerons entre les mailles du filet. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de ce dossier, avec toujours plein de questions pour vous sur franceinter.fr.
Je suis dans une drôle de situation. 40 de fièvre et de rage. Mais quand tu l'as, tu sais, c'est du plomb. Dans l'air, une voix de garage. Avec mon empire, si vite qu'il se tire, sans un sujet qui l'inspire. Avec mon nuage, ma bulle, mon visage, tu m'as rié du passage. C'est pas une drôle de situation. 40 degrés, c'est pas bon. C'est presque final comme solution. Presque pas normal au fond. Avec mes médailles, en toque ma ferraille, tu m'as laissé sur la paille. Cette rancœur, si dure, elle fait peur. Tu m'as laissé sans une fleur. Je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge. De ton cou où je dormais. Situation. À l'endroit même où se trame cette menace sur ma nation et mon armée derrière qui rame. Avec ta machine de guerre qui dessine le prétendant qui s'affirme. Avec ta faucille, ton marteau en vrille, tu m'as repris ce qui brille. Je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais.
Drôle de situation, Julien Bert sur France Inter.
Pour interpréter utilement les sismogrammes, il est indispensable d'observer avec minutie ce qui se passe dans le cratère. Il est nécessaire aussi d'y faire des mesures géophysiques et des analyses chimiques. C'est pourquoi, fort lourdement chargé, nous montons vers le sommet. Ce vêtement nouveau, fibre de verre anti-choc, aluminisé pour réfléchir la chaleur rayonnée par la lave, va nous permettre d'affronter les bombes lancées par les gueules explosives et de séjourner sur leur bord. Ainsi armés, masque à gaz prêt, nous descendons pour une première reconnaissance.
Voilà, Haroun Taziev, 1963, sur le Stromboli, au milieu des bombes de lave. Et ça, c'est extrêmement impressionnant, rien qu'à entendre déjà. Mais vous l'avez vécu véritablement, Jacques-Marie Bardenzeff.
Oui, ça fait plaisir d'entendre la voix un peu rocailleuse de Taziev.
On la reconnaît facilement.
Oui, tout de suite, il roule les airs. Effectivement, il a quand même été précurseur. Et c'est vrai que c'est le monsieur qui a fait connaître et aimer les volcans français. Il a fait des choses nouvelles et il a approché les volcans. C'était à la fois un scientifique et un sportif. Il n'avait pas froid aux yeux. Donc c'est vrai que maintenant, depuis, on a fait des choses nouvelles. On a des techniques.
Parce que là, ce qu'on entend justement dans le reportage, Georges Boudon, c'est extrêmement dangereux quand même. Avancer au milieu des bombes comme ça.
Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Alors donc là, la spécialité de Taziev, c'était les gaz. Donc il fallait aller prélever les gaz. Et pour prélever les gaz, bien sûr, il faut aller le plus près possible de la zone d'émission. Donc en effet, il y a un risque important.
Ouais. Alors quels sont les moyens de surveillance, de prévention dont on dispose aujourd'hui, Jacques-Marie Bardenzeff?
Maintenant, c'est vrai qu'on va dire qu'un volcan, il est surveillé. Parfois, on dit le mot monitoré, qui est un mot peu médicales, il est truffé de capteurs et qui sont enregistrés en direct par l'observatoire, par des moyens radio, éventuellement par des moyens satellites. Donc la meilleure méthode, et c'est ce que disait Taziev, c'est toujours vrai, c'est quand même les enregistrements sismiques. C'est-à-dire quand le magma monte de la profondeur vers la surface, de quelques kilomètres vers la surface, il secoue le volcan, il vibre légèrement, donc il y a des micro-séismes à peine perceptibles, mais enregistrés. Donc un gros séisme, c'est magnitude 7, là c'est seulement magnitude 1 ou 2.
D'accord.
Mais il y en a tellement que ça montre que le magma monte, et quand le magma est tellement, il bouge tellement qu'à la fin il peut saturer les séismographes, et quand il jaillit, c'est ce qu'on appelle un trémor, c'est un frémissement, donc c'est continu. Donc quand on voit les séismes de plus en plus nombreux et de moins en moins profonds, c'est synonyme que le volcan va rentrer en éruption.
Alors Georges Boudon, sur la dangerosité là, des volcans, justement, vous avez publié il y a 3 semaines une étude sur l'explosivité autour des dômes de lave. Donc ça c'est pareil, c'est un moyen aussi de pouvoir surveiller et d'évaluer la dangerosité du volcan.
Oui, bien sûr. Alors cette étude que nous avons publiée dans Nature Scientific Report montre comment les dômes de lave donc peuvent exploser de façon très superficielle et donc être très très destructeurs, comme on avait parlé au début de l'émission sur la montagne Pelée le 8 mai 1902. Et donc on a montré en fait que les gaz lors de la croissance du dôme, les gaz volcaniques déposent donc de la silice qui va obturer totalement donc toutes les porosités de la lave et former une carapace autour du dôme qui va devenir étanche. Et si on a un magma qui est un peu moins dégazé à l'intérieur, et ben ce magma donc va avoir une surpression, va entraîner une surpression.
C'est un effet bouchon en fait.
Et donc on a montré que cette explosivité, elle était surtout importante au début de la croissance des dômes parce que la carapace peut être parfaitement imperméable. Quand le dôme est plus gros, il y a les effets de poids du dôme, des fractures qui se forment, et donc on perd de l'imperméabilité, et donc le dôme devient moins explosif.
Allez, beaucoup de questions des auditeurs, on va terminer avec cela. Thierry demande quels sont les éléments radioactifs libérés par les volcans et en quelle quantité par an, Jacques-Marie Bardenzef.
Alors, c'est vrai que les volcans rejettent des produits radioactifs, notamment du radon.
Ouais.
Bon, c'est des quantités, on va dire, naturelles, c'est pas un danger, on va dire, il n'y a pas de danger radioactif dû au volcan. Par contre, ça permet de surveiller ces volcans, c'est vrai que d'enregistrer ces émissions, ça permet de voir un peu la santé du volcan. Il faut savoir également qu'un volcan libère des produits radioactifs ou pas, par son cratère, mais également par ses flancs. Donc il y a une émission qu'on appelle diffuse, notamment de radon, qui est mesurable.
Luc nous dit, l'extraction de pouzzolane continue toujours à Thuettes en Ardèche. Il y a 2 carrières qui attaquent le volcan de part et d'autre. On a vu pendant un temps la cheminée du volcan, puis elle a été entièrement détruite. Et les volcans, demande Christophe, les moins connus des terres australes et antarctiques françaises, île d'Amsterdam, île Saint-Paul, quelle est leur dangerosité, Georges Boudon?
Alors ces volcans-là, moi j'ai travaillé sur ces volcans un petit peu au début de ma carrière, sur les îles Crozet, donc donc ce sont des volcans qui sont relativement récents, qui ont quelques milliers d'années. Sur Kerguelen aussi, il y a des volcans qui sont relativement récents, mais pour le moment il n'y a pas d'activité.
Pas d'activité du tout.
Bon, par contre, il y a un volcan juste à côté, australien, qui s'appelle Heard, qui est actif, c'est le Big Ben, et il fait des éruptions régulières, donc il est un peu symétrique de Kerguelen. Voilà, donc comme pour la chaîne des puits, on n'exclut pas une reprise, mais c'est pas d'actualité.
Ouais. Stéphanie à Paris demande s'il y a un risque de reprise d'activité du Vésuve. Georges Boudon.
Alors le Vésuve, donc bien sûr, c'est un des volcans les plus dangereux de la planète, puisque non pas par la fréquence des éruptions, c'est un volcan qui a beaucoup d'éruptions, mais surtout par la quantité de population qui vit sur les flancs du Vésuve. On considère qu'il y a 700 000 personnes qui vivent sur les flancs du Vésuve. Et si on élargit donc à la ville de Naples, c'est 4 millions de personnes. Ouais. Et donc ce sont des volcans, les Champs-Flégrins à côté dans laquelle est construite la ville de Naples et le Vésuve, donc sont des volcans en effet dangereux. Il n'y a pas de recrudescence d'activité du Vésuve. Par contre, les Champs-Flégrins, c'est un très très grand volcan qui a une grande caldeira, un petit peu comme Yellowstone, enfin moins grand que Yellowstone, et qui a produit une éruption il y a 40 000 ans, donc c'est pas très vieux, qui a produit 300 km3 de magma dont on retrouve les cendres dans les lacs en Sibérie.
Ouais.
Et ce volcan donc a souvent des crises hydrothermales, des crises de déformation, donc c'est vraiment un volcan qui est très dangereux.
Allez, dernière question très rapidement, Jacques-Marie Bardenzef, car elles sont nombreuses en ce sens. Quel est le lien entre le réchauffement climatique causé par l'homme et l'impact sur l'activité des volcans? Est-ce qu'il y en a un vraiment ou pas?
Alors, les volcans ont plutôt tendance, on l'a dit, à refroidir le climat, ce qui serait plutôt une bonne chose, mais c'est jamais bien régulier, c'est pas comme on veut. Le réchauffement climatique pourrait avoir un impact très léger, peut-être si les glaces fondent, les volcans sous-glaciaires pourraient être plus actifs, mais c'est pas prouvé, c'est une relation qui reste très faible.
Ouais. Très très vite, Adrien sur Twitter, est-ce qu'on peut avoir de nouveaux volcans se former à l'échelle d'une vie humaine? Georges Boudon.
Bien sûr. Bien sûr, on peut. On a vu le cas, par exemple, au Mexique, dans les années 50, un volcan qui s'appelle le Paricutín, qui est sorti...
Dans un champ de maïs, hein, c'est ça, vous racontez.
C'est raconté dans
le livre...
Un paysan a découvert qu'il y avait un volcan...
Toute l'histoire est dans le livre de Jacques-Marie Bardenzès.
Ça n'arrive pas de façon... parce que maintenant, on a des moyens de surveillance, donc on peut détecter avant.
Allez, c'est aux éditions Orphie, les volcans du monde, Sif et Tsunami, et à la découverte des volcans d'Auvergne, aux éditions La Vache qui lit. Fabrice Drouel, bonjour. Combien de kilomètres entre le Vésuve et Naples, s'il vous plaît? C'est à l'italien.
Quasiment pas, pourvu que Naples soit épargnée, cette ville si charmante. Bref, moi je vais vous parler de quelqu'un qui était assis sur un volcan, mais qui ne le savait pas. Jacques Chaban-Delmas, terrassé à la fois par sa feuille d'impôt et par ses amis. Vous savez ce que disait Pompidou à l'époque, il était président. Occupez-vous de mes ennemis, je m'occupe de mes amis. Il avait bien raison. Notre invité, ce sera
Pompidou,
Laurent Geoffroy.
Pompidou qui était du Cantal.
Absolument. Oui, mon Boudiouf.
Autre émission volcanique, donc, affaire sensible après les infos.